Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. André Miquel est mort, agrégé et historien, spécialiste de langue et de littérature arabe. Il était âgé de 93 ans. Le prêtre et historien Vincent Feroldi reviendra sur son riche parcours. La Grande Mosquée de Paris annonce porter plainte contre l'écrivain Michel Houellebecq. Elle évoque des propos très graves qu'il a tenus au sujet des musulmans de France. Emmanuel Macron doit tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh et de la République d'Arménie. 11 parlementaires et dirigeants politiques de différents bords lancent cet appel dans une tribune publiée par Le Monde. Parmi eux, la sénatrice communiste Éliane Assassi, qui sera l'une de nos invitées. Face à la très forte hausse des cas de Covid en Chine, Emmanuel Macron demande au gouvernement des mesures adaptées de protection des Français. La mort d'André Miquel, agrégé historien, spécialiste de langue et de littérature arabe. Il avait 93 ans. André Miquel a été de 1984 à 1987 administrateur général de la Bibliothèque nationale, professeur au Collège de France. Il aura écrit près de 70 ouvrages. L'historien et prêtre Vincent Feroldi lui rend hommage.
C'est avec émotion que j'ai appris son décès, puisque j'ai eu finalement à profiter du travail d'André Miquel. C'est un homme finalement au parcours étonnant. Bon, il nous quitte à 93 ans. Cet homme qui est né dans le Languedoc a eu finalement un parcours déjà personnel, puisque son père, qui était instituteur, était quand même quelqu'un de très laïque. Et en fait, c'est pendant sa jeunesse André Miquel a découvert le christianisme, puis a découvert ensuite l'islam. Et quand on voit son parcours, il a été formé entre autres à l'Institut français de Damas, il a eu un début de carrière de diplomate, mais ça s'est mal terminé puisqu'on était en plein de la période sous Nasser et il s'est retrouvé finalement accusé d'espionnage. Et puis par la suite, il a pris le chemin de l'université et il a gravi un peu tous les échelons d'une extraordinaire carrière, puisqu'il a terminé comme à la chaire au Collège de France, il a été président de la BN, la Bibliothèque nationale, puis administrateur. Et puis dans ses écrits, il s'est aussi bien adonné à des écrits, je dirais, d'historiens, mais aussi de romancier, et puis il a aussi témoigné du drame personnel puisqu'il a perdu un de ses fils. Et au cœur de tout cela, il a montré combien finalement les sciences humaines sont importantes pour comprendre l'autre, que ce soit comprendre ce qu'est aussi le christianisme, ce qu'est l'histoire entre finalement les peuples, que découvrir et de comprendre ce qu'est l'histoire même du Coran, et puis de ce qui est ce lien qui peut être entre nos deux cultures, nos deux religions, et de comprendre que c'est à travers l'histoire qu'on peut peu à peu, apprivoiser cet autre qui peut nous faire peur. Que ce soit à travers la peur d'un colonialisme, les différentes formes, soit la peur de cet autre, et on voit bien aujourd'hui dans la société française que malheureusement beaucoup ont peur de l'islam parce qu'ils n'en voient aujourd'hui que sa traduction d'un islam politique, voire d'un islam conquérant à travers des formes de violence.
Et vous écrivez qu'il était un tisseur de ponts.
Alors voilà, un tisseur de ponts. Je relisais là ce matin ce qu'il disait en 2011 en particulier, sur le dialogue interreligieux. Il disait lui-même qu'il croit beaucoup à ces rencontres, à ces temps de dialogue, mais il ajoutait, il s'agit bien de définir d'entrée de jeu les terrains d'accord et non-accord. Et par exemple, on sait que entre l'islam et le christianisme, il y a la barrière de Jésus-Christ, puisque pour les chrétiens qui le disent le Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme, et on fêtait ça il y a quelques jours en ce temps de Noël, mais pour les musulmans, il est prophète. Mais il ajoutait que le dialogue, ça consiste à visiter un domaine commun où il y a des pavillons réservés. Et le visiteur, doit toujours respecter l'autre, sauf à être invité à y pénétrer, voilà ce qu'il disait, par son propriétaire, et faire preuve d'un minimum de compréhension envers la pensée de l'autre. Et il ajoutait que pour lui, c'est vraiment important, tant pour l'islam que pour la chrétienté, donc tant pour les musulmans que pour les chrétiens, c'est de se dire il est important que nos religions se mettent en accord avec l'histoire, avec un grand H, avec ce temps qui va et qui n'est peut-être plus celui des origines. Donc de se laisser interroger dans sa propre foi par les sciences humaines et entre autres par l'histoire, la vérité historique, qui ne vient pas nier ce qui est peut-être la foi, mais au contraire l'enrichir en acceptant de se laisser interpeller parce que les scientifiques, les universitaires, les chercheurs viennent nous dire des origines de nos religions. Vous voyez, il y a quelques semaines, j'étais en Israël avec un archéologue juif et à travers ce que nous découvrions des sites en Israël, il venait interpeller ma propre religion. Et il en est de même quand on étudie, par exemple, les manuscrits du Coran, de se laisser interroger sur cette transmission de la parole coranique à travers les siècles.
Justement, Père Vincent Feroldi, vous êtes historien engagé en faveur du dialogue interreligieux. André Michel aura marqué votre parcours.
Voilà. Et c'est des hommes qu'André Michel, mais on peut penser à d'autres qui viennent à travers leur travail, leur recherche, nous aider à comprendre ce qu'est l'origine de notre religion, celle que l'on professe, et les religions qui sont des chemins de foi pour tant d'autres. Et donc, vraiment merci à André Michel et à, je pense, à Philippe Ariès, à Fernand Braudel, qui nous ont marqués et qui nous ont aidés et nous aident aujourd'hui à vivre notre humanité et notre foi.
André Michel, dont l'œuvre mérite d'être enseignée.
Enseignée et puis lue, puisque finalement, il nous a laissé toute une série d'ouvrages et c'est peut-être l'occasion, surtout que en ces temps, on a peut-être eu des petits chèques pour faire des cadeaux, allons dans des librairies acheter tel ou tel livre qui pourrait nous aider, écrit par André Michel.
Dont La Fontaine à Bagdad, chez Orient Édition, qui vient d'être réédité.
C'est une très très bonne suggestion.
L'historien et prêtre Vincent Feroldi, après la mort d'André Michel, Radio Orient rediffusera aujourd'hui à 19h, samedi à 11h et dimanche prochain à 19h la bibliothèque de Radio Orient dont André Michel était l'invité le 29 janvier dernier, émission présentée par Loïc Barrière. La Grande Mosquée de Paris annonce porter plainte contre l'écrivain Michel Houellebecq. Elle évoque des propos très graves qu'il a tenus au sujet des musulmans de France. L'institution fait référence à une longue conversation entre Michel Houellebecq et Michel Onfray, publié en novembre dans un numéro hors série de la revue Front Populaire. L'écrivain qui a déclaré « Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamique, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats et des fusillades dans les mosquées et dans les cafés fréquentés par les musulmans. Bref, des Bataclan à l'envers », a-t-il dit. La Grande Mosquée de Paris dénonce un appel au rejet et à l'exclusion de la composante musulmane dans son ensemble. Le président tunisien Kais Saied a commenté le faible taux de participation lors des législatives le 17 décembre dernier. C'était lors d'une réunion à Carthage avec la chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense. Les 9 ou les 11% réalisés sont meilleurs que les 99% réalisés aux élections auxquelles ils avaient participé et qui étaient applaudis par les forces étrangères alors qu'elles savaient parfaitement qu'elles étaient falsifiées. Nous avons juste besoin des félicitations du peuple tunisien, selon les mots de Kais Saied. La grève dans les transports terrestres, maritimes et aériens fixés pour les 25 25 et 26 janvier prochains est maintenu en Tunisie. Le secrétaire général de la Fédération du Transport de l'Union Générale Tunisienne du Travail fait état d'un blocage avec les autorités. En Israël, le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays est présenté aujourd'hui. Benjamin Netanyahou, vainqueur des élections législatives du 1er novembre, revient ainsi sur le devant de la scène politique. Cet appel de 11 parlementaires et dirigeants politiques de différents bords, Emmanuel Macron doit tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh et de la République d'Arménie. L'intitulé d'une tribune publiée par Le Monde, parmi les signataires, la sénatrice communiste Éliane Assassi.
Je trouve que la situation dans le Haut-Karabakh et en Arménie est assez inquiétante. Vous savez, pour ce qui nous concerne, nous avons une longue histoire avec l'Arménie et le peuple arménien. Je ne citerai qu'un nom, c'est celui d'Isaac Manoukian, hein, qui fut un grand résistant et d'ailleurs pour lequel nous sollicitons qu'il soit inhumé au Panthéon. Donc nous avons une grande histoire avec l'Arménie. Et puis en novembre de 21, je crois, le Sénat a voté à l'unanimité une proposition de résolution sur la situation d'alors en Arménie. Et donc c'est en toute logique au regard de ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh au mois de décembre, nous avons co-signé une tribune pour en appeler à la responsabilité du président de la République française pour qu'il intervienne afin que une solution soit trouvée à cette situation et particulièrement pour condamner l'Azerbaïdjan pour le non-respect des dispositions internationales, apporter aussi une présence humanitaire en Artsakh et une aide économique en Arménie, rencontrer les représentants de l'Artsakh, bien évidemment. Enfin, un certain nombre de propositions qui sont au cœur de cette tribune que nous avons co-signée. Et j'insiste, la situation est inquiétante. Le couloir qui a été complètement fermé, qui n'a pas permis aux Arméniens de pouvoir se déplacer et de les laisser dans le plus grand dénuement est vraiment inacceptable.
Et vous soulignez qu'environ 120 000 personnes, dont 30 000 enfants, se voient aujourd'hui privées de ressources, dont l'approvisionnement alimentaire et médical.
Exactement. Donc, ce corridor doit être protégé, et, effectivement, afin que les Arméniens puissent circuler et puissent avoir accès aux éléments les plus essentiels de la vie quotidienne, bien évidemment.
La France qui reste aujourd'hui l'un des derniers espoirs pour les Arméniens?
Je ne sais pas si c'est le dernier espoir, puisque nous en appelons aussi à la communauté internationale, mais la France, je l'ai dit tout à l'heure, a une longue histoire politique, culturelle avec l'Arménie et je crois qu'elle s'honorerait effectivement de peser de tout son poids pour qu'il y ait une solution qui soit rapide, qui soit trouvée. Donc on peut empêcher, c'est ce que nous disons dans notre tribune de mémoire, que l'histoire se répète et qu'on retombe dans des sinistres ornières. C'est vraiment un enjeu fondamental pour ces populations. Je rappelle quand même que l'Artsakh est une république, le Haut-Karabakh pardon, est une république autonome et qu'elle a été créée par un référendum en 1991 et donc elle a été construite, j'oserais dire, démocratiquement. Et c'est vrai que la Turquie n'a jamais accepté cet état de fait, cette décision démocratique, et la Turquie veut absolument agrandir son territoire pour ouvrir ses frontières vers les Balkans, le Proche-Orient et l'Asie centrale. Donc c'est vraiment, vous voyez, la France peut peser de tout son poids parce qu'elle a effectivement une grande histoire et c'est un pays de paix, la France, mais aussi l'ensemble de la communauté internationale, bien évidemment.
Et vous évoquez justement les liens historiques entre les Arméniens et la France, hein, les liens multiséculaires,
bien
culturels,
sûr,
économiques,
sûr,
politiques.
Bien sûr, tout à fait. De grands noms de notre histoire, que ce soit dans le mode politique, Jaurès, Clémenceau, mais aussi des grandes figures de notre culture. Je citerai parmi l'un d'eux, mais il y en a de nombreux, Aragon, bien évidemment, et je faisais référence tout à l'heure à Isaac Manoukian. Donc on a une histoire profonde et qui est profondément ancrée et qui crée des liens entre nos deux pays, bien évidemment.
Cette tribune publiée par Le Monde est une tribune transpartisane, signée par des élus de gauche, de droite. Mmh. Ça aussi, c'est un élément très important.
C'est un élément très important parce que peut-être que nous avons quelques points de désaccord, mais nous nous, comment dire, nous nous concentrons sur ce qui nous rassemble et rassemble, pardon, et ce qui nous rassemble, c'est effectivement l'avenir, le devenir de l'Arménie. Et je vous le disais, nous avons co-signé une première proposition de résolution qui a été adoptée à l'unanimité au Sénat. Donc nous nous inscrivons dans cette continuité. Et je voudrais dire aussi que à l'initiative du président Larcher, nous sommes les présidents de groupe signataires de cette proposition de résolution, se sont rendus en Arménie il y a 2 ans pour donner encore plus de poids à cette résolution.
Quelle devrait être la première mesure prise par le président de la République? Vous en avez évoqué certaines.
Je vous parlais effectivement de la condamnation de l'Azerbaïdjan, bien évidemment, qui ne respecte pas les dispositions internationales, mais je crois pour on parlait effectivement d'intervention au plus haut niveau international, peut-être intercéder auprès de l'Union européenne et des États-Unis pour qu'ils conduisent des actions et de, comment dire, définir des sanctions économiques et politiques contre l'Azerbaïdjan. Et puis la France s'honorerait de rencontrer les représentants de l'Artsakh, mais dans les plus brefs délais, pour avoir un échange avec eux sur la réalité de la situation là-bas.
Et vous l'avez dit, l'Union européenne a elle aussi un rôle à jouer.
Tout à fait, tout à fait. L'Union européenne et l'ensemble de la communauté internationale, me semble-t-il.
La sénatrice communiste Éliane Assassi. De nouveaux bombardements russes sur Lviv, la grande ville de l'ouest de l'Ukraine, une ville à 90% privée d'électricité après les frappes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Face à la très forte hausse des cas de Covid en Chine, Emmanuel Macron demande au gouvernement des mesures adaptées de protection des Français. Le chef de l'État demande au gouvernement d'étudier la mise en place de mesures à la fois au niveau national et européen. L'Italie a déjà annoncé qu'elle imposait des tests obligatoires à tous les voyageurs venant de Chine. Les États-Unis ont assuré qu'ils allaient exiger un test Covid et négatif aux voyageurs en provenance du Chine. Cela dès le 5 janvier prochain. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe, présenté par Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal en langue française. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h17.